VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la Corne de l'Afrique. En Somalie, raid des troupes gouvernementales hier soir contre une école administrée par le groupe djihadiste Al-Shabaab dans la région de Chabel. 32 enfants en cours d'indoctrination ont été libérés et le gouvernement s'occupe d'eux, a déclaré ce vendredi le ministre somalien de formation Abdirahman Omar Osman en déplorant le recrutement de mineurs par les islamistes. Pour sa part, Al-Shabaab annonce que l'attaque des forces gouvernementales contre l'école a coûté la vie à 4 enfants et un enseignant et que les autres écoliers ont été kidnappés par les assaillants. Le groupe djihadiste accuse Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, d'être responsable de l'incident. Dans un rapport publié cette semaine, Human Rights Watch avait révélé que depuis septembre 2017, Al-Shabaab forçait les populations sous sa coupe à lui livrer des centaines d'enfants pour indoctrination. Controverse sur le partage des eaux du Nil, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn ont insisté hier sur leur volonté d'éviter un conflit autour du dossier du barrage éthiopien sur le Nil. L'Égypte craint que la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Quels sont donc les enjeux autour du Nil? Yacouba Ouédraogo a joint Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain, adjoint américain pour les affaires africaines.
Depuis des siècles, les eaux du Nil, ça c'est la vie d'Égypte. L'Égypte ne peut pas exister sans les eaux du Nil, parce que c'est un pays agricole, il n'y a pas beaucoup de fruits. S'il y a une possibilité qu'il y ait une grande perte d'eau à cause d'Éthiopie ou Soudan, c'est très grave. Donc il faut qu'ils parlent et qu'ils discutent les moyens d'éviter une crise.
Le chef de l'État égyptien a appelé à l'apaisement avec l'Éthiopie et le Soudan. Est-ce qu'il y avait des risques latents de conflit?
Oui, bien sûr, il y avait un risque de conflit. Je vois que le barrage que l'Éthiopie est en train de construire est très près de la frontière du Soudan. Donc, en cas de conflit, ce sera assez facile pour l'Égypte de faire des mauvaises choses contre ce barrage. Donc, c'est absolument essentiel qu'il y ait un accord sur le partage des eaux pour le bénéfice de tout le monde.
De quels moyens de pression disposent chaque partie, l'Égypte et l'Éthiopie? Le Soudan n'a pas pris part à ces dernières négociations.
Pour l'Éthiopie, c'est une chose faite, c'est-à-dire ils sont en train de construire et rien ne va l'empêcher de construire. Donc, ils ont un grand atout là. Le Caire a des moyens militaires d'agir en cas de situation grave. Donc, il ne faut pas que l'Éthiopie dise ça ne nous regarde pas.
En mai 2017, le Caire, Khartoum et Addis Abeba ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les conclusions d'un rapport de deux cabinets d'expertise. En décembre, le ministre des Affaires étrangères éthiopien s'est rendu à Addis Abeba, échec de nouveau. La rencontre de ce jeudi n'a aussi rien donné de concret. Qu'est-ce qui achoppe véritablement dans les négociations entre ces différents pays-là?
Je ne suis pas au courant des détails sur la technologie, sur l'environnement, etc., mais je crois qu'ils doivent demander l'aide des pays neutres, des États-Unis, les pays européens, les Nations Unies, pour envoyer des experts neutres pour expliquer tout ça, pour faire des études. Je suis sûr que le financement est disponible.
Est-ce que vous pensez qu'il y ait une solution définitive à cette question-là?
Oh, certainement. D'ailleurs, je dois attirer l'attention à un ancien projet qui a été interrompu dans le sud-soudan. Ça, c'est le projet du canal de Jonglai. Ça, c'est le Nil Blanc. C'était un projet pour faire un canal pour détourner le Nil Blanc en dehors d'un grand marécage. Et s'il termine ce canal, ça peut ajouter beaucoup d'eau qui va vers l'Égypte. Vous savez, l'eau qui vient d'Éthiopie, c'est le Nil Bleu. Donc, j'espère que la Banque mondiale et les bailleurs de fonds vont peut-être réouvrir ce projet qui s'appelle Jonglai Canal.
Ça pourrait être une solution définitive à cette épineuse question?
À mon avis, oui, mais il y a beaucoup de problèmes là-dessus aussi. La stabilité du Sud-Soudan, mais je suis sûr qu'ils vont trouver des solutions là-bas aussi.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, l'armée congolaise a dû repousser ces dernières heures plusieurs offensives de miliciens dans les deux provinces du sud et du nord Kivu, dans l'est du pays. Dans le sud Kivu, le convoi du commandant des opérations militaires, le général Philémon Yav, a été pris jeudi soir dans une embuscade tendue par la milice Yakutumba dans le territoire de Fizi vers le lac Tanganyika. Au moins un soldat a été tué et trois autres blessés. Et puis au nord Kivu, deux positions de l'armée nationale congolaise ont été attaquées ce vendredi par de présumés rebelles ougandais musulmans des ADF, les forces démocratiques alliées, près de la frontière de l'Ouganda. Les combats sont en cours, a indiqué à l'AFP le porte-parole militaire dans la région, le capitaine Mark Azukai. Selon cet officier, quatre rebelles ont été tués. Au Burundi, un groupe parlementaire d'opposition dénonce l'arrestation de plus de 40 de ses militants. Le gouvernement leur reproche de battre campagne contre le référendum avant même l'ouverture officielle de la campagne en ce sens. John Lindon.
Selon Pierre-Célestin Dikoumana, président de ce groupe, 42 militants du mouvement Ami Zéro Ya Barundi ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés depuis le 12 décembre. Ils sont accusés de faire campagne pour le non. Ce mouvement regroupait au départ les ex-rebelles du FNL dirigé par Agathon Rwasa et l'ancien parti unique UPRONA de Charles Ndidijé. Par la suite, M. Rwasa a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a lancé le 12 décembre une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle. La campagne officielle commence deux semaines avant le référendum. Les Burundais doivent se prononcer sur un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Ce référendum était initialement prévu en février. Il a été reporté au mois de mai.
Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a assuré vouloir la présence d'observateurs étrangers lors des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir dans un pays cette année. Et ce, pour rompre avec les pratiques de son prédécesseur Robert Mugabe. Le président Mnangagwa a assurer qu'il veillerait à ce que les élections soient libres, crédibles, justes et indiscutables afin que le Zimbabwe puisse être considéré comme un État démocratique. En Côte d'Ivoire, sentence au procès en assises à Abidjan lié à la crise post-électorale ivoirienne. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son dernier premier ministre Gilbert Akenoubo, ainsi que deux de ses ex-ministres, ont été condamnés jeudi à 20 ans de prison pour des faits de braquage de l'Agence nationale de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pendant les événements. Plus de détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
20 ans de prison avec une amende de 329 milliards de francs CFA. C'est le verdict rendu par le juge Sombé Meïté jeudi au tribunal de première instance d'Abidjan pour l'ex-président Laurent Gbagbo et à Gilbert Aké Mbo, son ex-premier ministre, Kone Katina, son ministre du budget et Désiré Dalo, son ex-ministre de l'économie et des finances. Tous les trois accusés par le ministère public ivoirien pour vol en réunion par infraction portant sur des CAF à la BCAO en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Aussi, c'est Tussé qui avait dressé les procès-verbaux de constat après ce braquage et écope de 36 mois de prison et de 700 000 francs d'amende. Les procès en assises autour de la meurtrière crise post-électorale en Côte d'Ivoire se poursuivent. L'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi, et ses trois co-accusés ont été reconnus jeudi soir coupables de complot contre l'autorité de l'État et condamnés chacun à 15 ans de prison par la Cour d'assises d'Abidjan. Un verdict jugé politique par la Défense. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a exprimé jeudi ses regrets auprès des ambassadeurs africains qui s'étaient dit outrés par les propos insultants prêtés au président Donald Trump sur l'immigration. Les propos de Nikki Haley ont été rapportés par l'ambassadeur de Guinée équatoriale, Anatolio Ndong Mba. Et pour terminer, le Congrès américain a surmonté jeudi un premier obstacle grâce à la Chambre des représentants qui a voté un budget provisoire pour éviter la paralysie des administrations fédérales. Mais la menace de chômage forcé pour des centaines de milliers de fonctionnaires pèse toujours, avec un vote très serré encore attendu au Sénat. Date butoir pour éviter la paralysie des administrations fédérales, vendredi soir à minuit. Le Sénat doit d'ici là voter à son tour une telle mesure au risque de provoquer un shutdown, c'est-à-dire la fermeture de grand nombre d'agences fédérales. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.